Bonjour, l'Espagne domine l'Europe du foot depuis plus de 10 ans. L'Espagne produit parmi les meilleurs jambons du monde. L'Espagne produit des huiles d'olive exceptionnelles. Mais qu'en est-il du monde du vin ? Les Rioja viennent-ils taquiner nos grandes cuvées sur la scène internationale ? Les errances volumiques du passé sont-elles oubliées ? Qu'en est-il de l'approche bio et biodynamique chez nos voisins, inventeurs du chorizo ? Essayons de les découvrir ensemble. Ce 32e épisode s'intitule « L'Espagne revient en finesse ». Bienvenue dans la Terre à boire. Hola todos. Ce sont les seuls mots d'espagnol que je vais
Buenos días.
Pouvoir prononcer. Bonjour à tous, la petite équipe là autour des vins du monde qu'on a constituée à l'ABC du vin, la Truffière, grâce à Florence Aragoni qui nous accueille avec mille belles choses qu'on boit et qu'on mange. Bonsoir Florence.
Bonsoir.
Bonsoir Daniel
Giraud. Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Qui est resté avec nous pour faire cette découverte des vins du monde. Philippe Viette également. Laurent Delson.
Hola.
Est là.
Hola.
Patrice Defay est là.
Bonsoir.
Je ne vais pas tarder à lui donner la
parole puisqu'il revient tout juste d'Espagne et qu'il a des belles choses à nous faire découvrir.
C'est un taf cette émission, c'est un taf.
C'est un boulot de dingue. Même en vacances, les garçons travaillent. Qu'est-ce qu'on peut dire si on veut parler déjà d'une manière générale de l'Espagne ? Moi, je ne connais pas grand-chose des vins espagnols. Je pense que spontanément, ça ne m'évoque pas un territoire.
Je pense que jusque-là, vous n'aviez pas eu assez de chiffres.
Qualité
donc
incroyable.
Je pense qu'on va avoir un peu plus de chiffres.
Les chiffres arrivent.
On est tellement impatients.
Laurent adore toujours la partie chiffres.
Ce petit côté ironique sur les chiffres.
Non, il aime les chiffres, Laurent.
L'Espagne, c'est le plus grand domaine mondial avec 1,1 million d'hectares. Okay. Alors voilà. Que la France pour et l'Italie sont à peu près 850 000 pour info. Ce qu'on sait assez peu de l'Espagne, c'est que c'est des rendements très faibles. C'est 25 hectos à l'hectare.
En moyenne.
Voilà. La France étant à 60, donc on voit qu'il y a quand même une grande différence. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a un climat assez rude, de manière générale, et on a aussi beaucoup de vignes âgées. L'Espagne a des vignes en moyenne beaucoup plus vieilles qu'en France. Et ça, on le sait assez peu.
Plutôt un bon point, ça, a priori.
Exactement. A priori, c'est plutôt un bon point.
On n'arrache pas les vignes.
Exactement.
On n'arrache pas les vignes parce que c'est le sang de Dieu et que c'est une plante divine.
Il y a un côté religieux en Espagne qui fait que, effectivement, les vignes sont restées plantées plus longtemps qu'ailleurs. Et puis l'Espagne, on va dire, il y a trois grands climats en Espagne. Plutôt un climat océanique.
Il fait chaud, il fait très chaud ou il fait très très chaud ?
Non, pas du tout. Moi, je rentre de Saint-Sébastien au Pays Basque. Je peux vous dire qu'il ne fait pas super chaud, que c'est assez pluvieux et que c'est hyper vert et que c'est beaucoup plus vert que dans 90% des territoires français. Parce que c'est très océanique. Donc, on a un climat océanique au nord-nord-ouest, on va dire. Un climat plutôt continental à tendance aride au centre de l'Espagne. Et puis, forcément, quand on va se rapprocher de la Méditerranée, on va avoir un climat méditerranéen. Donc, on a trois grands climats en Espagne. Allez, océanique, continental aride et méditerranéen. Donc ça, c'est les grandes caractéristiques. L'Espagne, après, ça se rapproche pas mal de la France sur les découpages des vins, parce qu'on va avoir 17 régions autonomes qui ont chacun des vins spécifiques. Et on va avoir tout en haut de la hiérarchie, ce qu'en France, on pourrait appeler des monopoles, qu'on va appeler les binots des pagos. C'est des monopoles comme le Château Grillet, comme le Clos des Lambrais.
Monopole, c'est-à-dire c'est un domaine qui fait l'appellation.
C'est un domaine, une appellation, exactement, qu'on trouve plutôt en Castillonne de manière générale d'ailleurs, ces vins-là. Ensuite, on va voir les DOC, donc les Denominación de Origen de Calidad, où là on n'a que Rioja
et Priorat.
Priorat, et mais je crois que Xerès et Cava ont aussi droit à cette appellation.
C'est l'équivalent d'une AOC, c'est ça ?
C'est une super AOC, ouais. En fait. La DOC, c'est une super AOC. Et après, l'AOC.
On n'aurait pas l'équivalent, nous, en France ?
Non. Non, mais ce sera, ce sera des grands crus, on pourrait dire ça comme ça. Ou et après, on va voir les Denominación de Origen. Donc là, ça va correspondre plutôt à l'AOC ou à l'OP classique. Et puis, sinon, après, l'équivalent des IGP. Alors, je crois que c'est VICCG en espagnol.
Oui.
Mais c'est les 20 pays, entre guillemets, en tout en bas de l'échelle. Donc, on a un découpage aussi par région autonome, il y en a 17 en Espagne, qui se rapproche pas mal du découpage régional, on va dire, en France. Donc l'Espagne s'est beaucoup inspirée de la France, en tout cas dans son découpage.
Administratif.
Exactement. Avec aussi quelques cépages autochtones.
Cépages, alors ?
Exactement. Alors, on le sait peu, mais le premier cépage blanc dans le monde, c'est l'ARN, qui est le plus cultivé.
Comment t'écris ça ?
A-I-R-E-N.
D'accord.
Voilà. On va retrouver l'Albarino, notamment en blanc. Et puis, bien sûr, côté rouge, on va. Il y a pas mal de Carignan, bien évidemment. Qui est, voilà. Mais bien sûr, le Tempranillo, qui est le cépage qu'on va retrouver dans le vin que j'ai amené.
Donc, quand tu dis Tempranillo, Daniel fait des bonds sur sa chaise, en fait.
Alors, Tempranillo, ça vient de temprano, en espagnol, qui veut dire tôt. Donc, c'est un cépage précoce, comme son nom l'indique. Qui s'exprime particulièrement bien dans, j'espère, dans le vin que j'ai ramené, dans la Rioja Altavesa. Donc en Rioja, on a trois grands domaines. On a la Rioja Baja, en bas, près de l'Ebre. En plus, on va monter un peu en altitude, on va voir la Rioja Alta, et on va voir la Rioja Alavesa, d'où est issu le vin que j'ai ramené, qui s'appelle Fincas, de la Bodegas Bilal, qui est encore... côté Pays Basque, donc on est au nord-ouest de l'Espagne, au sud-est du coup du Pays Basque, et dans la Sierra Cantabrienne. Donc on est sur un vin plutôt d'altitude, entre 500 et 600 mètres à peu près. Des sols assez pauvres, plutôt à base de calcaire et caillouteux, rochers. Voilà, et donc c'est le vin que j'ai ramené de la Bodegas Bilal. Alors Bilar, c'est le nom basque pour El Vilar, qui est le village de la région d'Alavesa d'où est issu ce vin. Voilà, un petit peu dans les grandes lignes.
Alors, tu nous as dit le cépage de ce vin ?
Alors, on est sur 80% Tempranillo, 15% Graciano et 5% Vioja. Donc le Vioja, c'est le macabeu. Alors le problème du Tempranillo, c'est que c'est un cépage. Qui se révèle tôt, qui a des peaux épaisses, qui est assez tannique, qui garde bien, mais qui a très peu d'acidité et qui a assez peu de fruité de manière générale. Donc on a le Graciano, qui est un cépage autochtone, qui va ramener pas mal d'arômes dans ce vin-là. Et donc le Macabeu, qui est plutôt un cépage blanc, hein, 5%, qui va ramener plutôt le côté alcoolique et fruité.
Et puis il y a l'autre cépage là qu'on assemble aussi, qui est, comme tu disais, le Carignan.
Le Carignan.
Qu'on appelle en espagnol le Mazuela.
Voilà, ou Carignano.
Ou Carignana.
Carignan qu'on retrouve beaucoup dans les Rhônes Sud. Hein. Dans les Rhônes Sud, il y a souvent du Carignan dans les assemblages de.
Rhônes Sud et puis Languedoc.
Ouais,
Provence.
Languedoc aussi. Maintenant, on fait des 100% Carignan sur de la macération carbonique. Et c'est.
Ce qui m'a toujours impressionné très avec l'Espagne, c'est tout ce qui se faisait avant les années 90. Et ce qui s'est fait après les années 90, avec les excès, donc ce qu'on va appeler les espagnols, c'est-à-dire des faux vins, des faussement vieillis, des Rioja faussement vieillis, et voilà, tu vois, très oxydés.
En Espagne.
Et après, on a fait des vins très modernes. Et là, maintenant, aujourd'hui, moi, je m'éclate en Espagne depuis quelques années, parce que c'est incroyable quand même. J'ai l'impression que ce pays, il est passé du Moyen-Âge en 3 ans, il est passé du Moyen-Âge à une ère très moderne.
Je pense
aussi. Et puis là, maintenant, il y a vraiment plein de choses différentes qui sont en train de se faire. Et plein de. Par exemple, une jeune génération, le fait d'avoir conservé des vignes anciennes, si Peter Sisset qui fait les vins qu'il fait aujourd'hui, ben merci aussi. Au vignoble qu'il a trouvé, c'est aussi pour ça qu'il a planté des vignes aujourd'hui.
Peter Sisek, donc on est à Psy, hein, je crois, qui est un de ses vins.
Pingus,
bien évidemment. Après, il y a Vega Sicilia qui est assez connu, mais qui est. Alors, en Espagne, on va dire, c'est faux, mais le vin se divise en deux catégories. Soit on fait le vin dans la vigne, soit on fait le vin en élevage. Et je pense que le défaut de l'Espagne a été de travailler beaucoup l'élevage et le côté boisé. Philippe nous parlera peut-être du bois français, bois
américain.
Après 90, avec les bois américains et tout, mais c'est allé très vite, tu dis, parce qu'avant on avait des vins oxydés, après on a eu un boisé neuf, et maintenant on a des vins de fruits, quoi. Ce que tu nous as fait goûter là.
Je pense que ce qui est intéressant justement là, c'est que, donc on parlait là, le titre de l'émission est assez parlant, hein, le retour en finesse. Je pense qu'effectivement, avec le changement d'optique sur l'élevage, beaucoup de bois américains à une époque, et puis très extraits. Puis maintenant, on fait des vins peut-être un peu plus infusés, j'ai l'impression, en Rioja. Et on essaye d'augmenter la part de bois français pour apporter un peu plus d'élégance. Les bois, le chêne français est moins marqué que le chêne américain qui apporte ce côté un peu coco,
vanillé.
Toasté, grillé, un peu... un peu prégnant
qui marque le vin
qui marque trop le vin Et puis, ouais, des vins plus en infusion, plus doux, plus fins, plus élégants, qui sont beaucoup plus... qui mettent plus en valeur le fruit et puis le travail peut-être dans la vigne.
Mmh. Alors, donc, pour le vin, donc, on est sur Fincas, donc, qui est un vin de la Bodega Billard. Donc c'est deux personnes qui s'appellent... Donc, le viticulteur, le vigneron, s'appelle David San Pedro Gil. Il a eu la bonne idée, ou pas, je ne sais pas, mais de se marier avec Melanie Hickman, qui est une Américaine. Et dès 1999, en fait, ils ont repris le domaine. Il a repris le domaine de ses parents. Et il a tout de suite travaillé dans une logique biodynamique terroir. Par rapport à cela, on fait plutôt des petits volumes. Là, on est Fincas, juste pour info, on a moins de 10 000 bouteilles par an. On a la bouteille 545 sur 9330. Donc je trouve ça intéressant parce qu'il n'y a que nous qui avons la 545e.
Les bouteilles sont numérotées, en effet.
Exactement. Ouais. Il a d'autres vins qui sont à 500 exemplaires, hein, pour information. Donc il travaille dans un esprit biodynamie. Il a arrêté le tracteur en 2014 pour passer à cheval. Hein. Laureline Laborde pourrait nous en dire deux, trois mots dans le Jura. Mais donc on a vraiment une idée d'approche terroir, de travailler d'abord la vigne plutôt que l'élevage. Alors pour info, le Fincas, donc on a dit c'est un assemblage Tempranillo à 80%, Graziano à 15% et donc Macabeu à 5%. Et on élève pendant 36 mois, donc donc on est 50% éraflé, 50% non éraflé, et on élève 36 mois en chêne français. Donc la fermentation alcoolique se fait dans des cuves, et la fermentation malolactique se fait donc dans des barriques de 500.
36 mois, donc tu es sur un grand réserva ou t'es...
Alors on est sur une réserva.
Ah, réserva.
Voilà, exactement. Donc en Espagne aussi, pour distinguer les vins, on a le Roben, donc le vin jeune ou le vin de l'année qui est mis en bouteille tout de suite. On a le Crianza. Qui est effectivement un an en élevage. On a le Reserva qui est au moins 3 ans en élevage, et on a le Grand Reserva qui est au moins 5 ans en élevage.
Alors ça c'est intéressant parce que c'est des marqueurs qu'on peut retrouver quand on va chercher des vins. Est-ce que c'est marqueur de qualité? C'est-à-dire que plus on monte...
À la base, c'était un type d'élevage qui était lié à la Rioja, mais qui s'est étendu, à toute l'Espagne.
On m'avait donné le conseil un jour, et j'en ai maintenant l'explication. Quand tu prends un Rioja Crianza. Donc c'est déjà meilleur qu'un Roben, un primeur a priori, en tout cas plus fait, plus établi. Est-ce que si on monte comme ça, on prend Reserva, Grande Reserva, on va avoir des vins encore plus éblouissants?
Je pense qu'on aura des tanins qui seront beaucoup plus souples et beaucoup plus intégrés.
Après, c'est la dose de bois, quoi. Hein. C'est toujours pareil. La caricature, alors aussi positive, hein, si on prend Vega Sicilia, qui est le domaine en Castilla-León, Vega Sicilia, le Unico, qu'ils ont à peu près à 300-400 € la bouteille, qui est le grand domaine, ça reste 10 ans en barrique. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail post-unification où ça passe pendant 3 ans en barrique française, puis 2 ans en barrique plus petite, puis 3 ans. Non, mais c'est vrai, tout un travail. Non, mais.
C'est pas sorti dans l'ordre des millésimes, c'est sorti quand c'est prêt à boire.
Exactement. Et donc il y a 10 ans d'élevage pour... Alors c'est une approche du vin, c'est une lecture, ça se vend très bien, c'est très bien noté, ça se vend 300 €. Donc le Vegas aussi, il y a Unico, ça c'est élevé pendant 10 ans, donc oui c'est un produit un peu unique, mais c'est un produit d'élevage. Là encore une fois, avec Fincas de la Bodega Bilal, on a plutôt une logique de travailler le terroir. Il y a différentes parcelles hein, d'ailleurs dans la Rioja Alavesa, et lui travaille différentes parcelles avec des vignes qui vont de 40 à 100 ans, mais les plus jeunes ont 40 ans, on va dire, les plus vieilles ont 100 ans. Et l'idée, c'est de travailler plutôt l'approche terroir et la spécificité de différentes expositions et des différents sols.
Qu'est-ce que vous pourriez dire de ce vin-là qu'on est en train de déguster?
Ceci dit, pour revenir, ils ont Valbuena, ils ont Pintilla, et là, tu as vraiment un vrai travail sur les sols à Vega.
S'ils ont Valbuena, ils sont bien barrés. Hein.
Un vrai travail sur les sols et les terroirs. Moi, je trouve ça absolument délicieux. Je trouve que c'est élégant. Il y a un joli nez de fruits, il y a toute une délicatesse. C'est vraiment pour moi l'image de ce qu'on fait aujourd'hui en Espagne. Tu as une délicatesse de nez, tu as un fruit qui est assez explosif, mais la bouche, le tactile, c'est sur la délicatesse.
En tout cas, voilà.
C'est là, mais c'est sur le délicat. Hein.
Voilà, c'est ça. On n'a pas l'expression du bois, c'était l'idée un peu hein, de chercher quelque chose de plutôt.
On est très loin du bois.
On est très loin du bois. Parce qu'on a un peu l'image de la Rioja, effectivement, très boisée, très vanillée, exactement, qui reste encore un peu marqué. Moi, enfin, l'idée que j'ai de la Rioja, c'est le côté un peu explosé tannique. Hein. Pour revenir d'Espagne, j'ai pris des Rioja entre guillemets classiques, et c'est vrai que voilà, on boit de la vanille, quoi. Hein.
Ça arrache un peu le palais.
Non, ça arrache pas.
Mais ça
a pas de longueur, ça a pas d'acidité. Tout explose en 3 secondes. C'est toujours pareil. Un vin, c'est pas large, c'est long, quoi.
Le vin, il est soyeux. Il fait la queue de paon dans la bouche. Il n'est pas du tout lourd ni opulent, quoi. Il se répand sur tes papilles et tout, là, sur tes muqueuses. Super délicieux, quoi.
Qu'est-ce qu'on mangerait avec ça?
C'est sensuel. C'est vraiment un vin avec un tactile fabuleux, quoi. Mmh. Très joli vin. Vous nous régalez ce soir, hein.
C'est vrai qu'on se régale. C'est pas moi qui l'ai dit.
On sent la présence du tannin juste derrière qui donne un tout petit côté, pas vraiment jansénisme, un tout petit côté un peu, mais quand même. Hein.
Un peu de droiture.
Qui fait penser qu'on peut l'attendre encore. Ouais, c'est très très bon. Hein.
120, donc c'est un 2013 en fait, donc il n'est pas sorti.
Ah, parce qu'il explique.
Il n'est pas très très longtemps. Il est très très longtemps, parce que comme il reste 36 mois quand même en barrique, il n'est pas sorti en vente il y a très très longtemps. Quoi.
Les accords.
Morceau de bœuf, on pourrait
juteuse,
faire
hein.
quelque chose d'un peu original, un du carpaccio gros, de bœuf Angus, juste saisi sur l'extérieur, la viande de bœuf juste saisie à l'extérieur et encore bien crue à l'intérieur pour le côté juteux, et accompagné avec une petite sauce aux herbes pour faire ressortir la finesse et peut-être des notes un petit peu plus végétal.
Parfait.
Voilà.
Je trouve ça, tu me donnes faim, Florent. Ça devrait aller magnifiquement avec ce vin.
Il va falloir recouper du jambon.
On va appeler le chef Retour Express ici pour faire des carpaccio de bœuf Angus.
Est-ce que ça, on peut le... C'est pas forcément une bonne question, je vais la poser quand même. Est-ce qu'on peut le rapprocher de vin qu'on connaît par chez nous?
C'est pas une bonne question.
C'est pas une bonne question.
Non, c'est trop différent.
Là-dessus, il faut éviter d'essayer de faire des parallèles, parce que je pense que c'est vraiment très typique.
Alors, on est quand même plus proche d'un vin du Languedoc que d'un Bourgogne. Je peux dire ça ou pas?
On a un côté sud.
Ah. On a un côté sud, mais qui est quand même
sans
plus,
brûlure d'alcool.
Qui est quand même plus marqué que les vins du Languedoc. Hein, si tu prends les terrasses du Larzac, quand même, il y a...
On est quand même à 14 degrés. Hein, sur,
ça ne se sent pas du tout.
Oui, mais ça se sent pas.
Non, parce que tu as un beau jus, tu as un équilibre. Moi, tu as des vins à 11 degrés alcooliques qui sont extrêmement alcooleux. Parce qu'il n'y a pas de matière derrière. Mais là, tu as une telle matière, une tellement belle matière, que tes 14 degrés, tu ne les sens pas. Hein. Tu as vu goûter des monastrelles, non? Parce que j'adore ce cépage, moi.
Non.
Parlez-nous du monastrelle, Daniel.
Monastrelle, c'est le Mourvèdre, en fait, non?
Mourvèdre.
Oui. Ah, le Mourvèdre.
J'ai une adoration. Et s'il n'y avait pas eu d'espagnol, nous n'aurions pas de Mourvèdre ni de Mandol en France.
Ouais,
ce serait bien dommage.
Exactement. Bah,
ouais. Mourvèdre, c'est un cépage magnifique.
C'est eux, les Espagnols, qui ont amené ça. Et juste, moi, j'avais goûté des Comme Rumilla,
le Grenache. Alors, le Grenache, c'est aussi un cépage espagnol.
Pour revenir un petit peu en France, il paraît que le Tempranillo aurait été amené par les moines de Cluny sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ils auraient égrené ou donné le Tempranillo, entre guillemets, en Espagne. Donc,
En Espagne, le Grenache, c'est quand même le cépage aussi.
Un des cépages majeurs.
Pour moi, le Tempranillo, c'est un cépage fabuleux. Fabuleux cépage.
Pour moi, mon préféré, c'est quand même l'Albarino.
Alors,
parce que t'es plus blanc que rouge, toi.
Peut-être que je suis plus blanc.
Albarino, c'est pas blanc, donc.
L'Albarino, oui, c'est
plutôt vers la Galice.
De la Galice. Donc, qui se marie magnifiquement avec les couteaux, notamment.
Parce que la Galice, c'est un peu la Bretagne française, si on devait faire un rapport entre matières et régions.
Entre l'Irlande et la Bretagne. Parlez pas tous en même temps,
dans tous les sens.
Comment il s'appelle ce blanc? C'est pas.
On est botrytisé, c'est pour ça.
Un blanc sec de Galice, il y a une appellation.
Qui est pas Rias Baixas.
C'est de la merde, ça commence par un G, je crois.
Là, je sèche.
Laurent, tu disais l'Albarino.
Le Godello.
Oui. Pour moi, le Godello.
Le Godello qui revient.
Maître Capello, merci.
Non, le Godello.
Merci, Maître Capello. Les Godello, moi, j'ai goûté des vignes plantées à 1200-1400 mètres d'altitude. Fabuleuses. Fabuleuses. Un fruit, une vivacité, une fraîcheur.
C'est rouge ou blanc, revient. Donc, c'est un vieux cépage.
C'est blanc aussi.
Peu usité. Le Godello revient à la mode.
Ouais. Bah, comment il s'appelle? Il y a un mec qui a replanté ça, Rafael Palacios. Raphaël, le frère d'Alvaro,
de Miguel,
qui fait des vins plein de bois.
Miguel.
De Miguel, pardon.
Il a replanté, donc, sur cette appellation du nord de l'Espagne, il a replanté ça. Et il a des vignes très, très anciennes, il a des vignes centenaires de ce cépage fabuleux. Et moi, c'était extrêmement... Sans bois, sans rien, purée, que c'était bon.
Il y a une autre belle région dont on a malheureusement pas des vins de là, mais je pense que la Catalogne aussi fait des très très beaux vins.
Le Priorat.
Le Priorat. Je pense aussi à un vigneron qui s'appelle Raoul Bobet, qui est en appellation Costers del Segre, au nord de la Catalogne, sur les contreforts des Pyrénées. Il a un domaine qui s'appelle Castel d'Encus.
Raoul Bobet est un espèce de génie géotrouve-tout qui a travaillé pour une très très grande maison espagnole et puis qui a décidé de prendre une autre route. Il était directeur technique dans cette maison et il a racheté en fait un vieux domaine qui était tenu par des moines hospitaliers au 11e ou 2e siècle de notre ère et qui vinifiait dans des cuves qui étaient creusées dans de la roche. Et il fait des vins incroyables en Albarino, en Syrah, en Sauvignon Blanc. Castel d'Encus, c'est vraiment des vins sublimes. En Costers del Segre, qui est une appellation qui est en train de prendre beaucoup de visibilité en Catalogne. Donc si vous croisez des vins comme Talarn, n'hésitez pas, c'est très très beau.
Est-ce qu'il est parent du grand Louison Bobet?
Non, malheureusement, il n'a pas...
Il a une cuvée qui s'appelle le Pau Belge.
Voilà, le Pau Belge ou la cascade à pois rouges du meilleur grimpeur. Mais ça vaut aussi le détour et ça vous changera un peu peut-être des idées sur les vins espagnols.
Alors, juste pour info, même si on ne me pose pas la question, donc le Fincas est à 18,90 ce vin-là. Oh, 18,90 donc en
le
cave.
Le plus abordable de la soirée.
Non, ouais. c'est je trouve ça un très bon rapport qualité-prix.
Tout à fait.
Alors, après, j'ai trouvé chez un caviste en Espagne.
Oui, c'est ça.
Donc, faut voir.
Les coûts sont moindres en Espagne.
Je ne sais pas. Mais en tout cas, 18,90 dans un très beau caviste de Saint-Sébastien, donc. Mais donc voilà, donc j'imagine qu'on doit le trouver entre 20 et 25 euros en France. Et c'est un, je trouve ça un bon rapport qualité-prix.
Cette remarque que boire du vin en Espagne coûtait quand même beaucoup moins cher, y compris au verre, dans les bars à vin, tout ça, on boit des très bons vins. Et on boit, c'est un moins grand coef que.
Pour être rentré de Saint-Sébastien, un verre de vin, c'est entre 1,50€ et 2€.
Alors, ce qui n'existe pas à Paris.
De base, donc on a le fameux Chacoli, donc, qui est le vin basque par excellence, du côté de Guetaria notamment.
C'est à boire avec des pinchos.
Exactement, à boire avec des pinchos. Donc
dans les petits bars sur la place.
Donc voilà, vin blanc et rouge, on trouve entre 50 et 2€.
Ce qui sont effectivement pas des tarifs qu'on trouve en France.
C'est pas cher.
Un verre de vin à 2€.
Ce qui est magnifique dans la bouteille, là, c'est la soie.
C'est soyeux.
C'est d'un soyeux.
C'est vrai.
C'est d'une élégance. Ça a vraiment le tactile de la bouche est fabuleux, quoi. Ça.
Bon. Et est-ce qu'on parle des
parlons-en
des effervescents, parce que on est passé l'Italie, on n'a pas du tout parlé du Prosecco,
le fameux cava.
Et là, on ne parle pas du cava. Et je trouve que c'est quand même un petit peu dommage parce que
du Xérès. Même...
Alors le Xérès, on en a parlé.
On va y revenir. Le Xérès, on en a à goûter.
Et on va en goûter. Mais les effervescents qui sont.
Tu as carte blanche.
Non. Je veux juste effectivement évoquer ça parce que c'est quand même des vins qui prennent des parts de marché sur le marché international très très importantes par rapport à notre ami le champagne. Et c'est toujours intéressant de voir un petit peu. Et moi, j'ai besoin d'un peu d'éclairage parce que c'est vrai que bon, j'ai bu du cava, j'ai bu du prosecco, bon, des choses qui étaient plutôt pas terrible, mais il y a des évolutions, je pense, sur ces
grands cavas.
Voilà, exactement. On connaît tous les marques Freixenet, Codorniu, etc., qui sont les grandes maisons de négoce et qui font des choses pas terribles. Enfin, je suppose qu'ils ont aussi des cuvées de prestige. Mais je serais curieux de savoir un petit peu, justement, Daniel, si... Il y a des maisons indépendantes, aussi bien Prosecco. Alors, j'avais regardé un reportage sur Prosecco où j'avais l'impression qu'effectivement, ils avaient cette appellation, ils avaient un peu élargi leur appellation. Au début, il y avait vraiment des terroirs qui étaient très nobles, qui faisaient des choses magnifiques. Et puis, devant le succès, ils ont élargi l'appellation pour proposer des choses en plaine qui n'avaient aucun relief. Donc, il y a vraiment, à mon avis... des très différentes variétés de niveaux de qualité de Prosecco. Mais je pense que le Cava, c'est un petit peu la même chose.
Moi, je pense que ça vaudrait peut-être la peine un jour de faire un travail là-dessus sur toutes les bulles européennes, parce qu'il y a des très grands Cavas. Très très grand cava en biodynamie avec un travail de recherche au niveau des sols, etc. Moi j'ai goûté et je distribue un ou deux là des choses vraiment magnifiques et ce serait sympa de faire ça un jour si on a l'opportunité.
Très intéressant.
Spécial pétillant. Moi j'en ai pas parlé non plus.
Sur les effervescents, ouais. Parce que là vraiment il y a des cavas, mais ça se boit c'est comme des très très grands champagnes.
J'en suis convaincu, mais je ne les connais pas.
J'en ai pas parlé quand on parlait de l'Italie.
Et puis
mais...
en Italie il y a les Moscato. Et les Moscato d'Asti, il n'y a pas que de la merde. Il y a des Moscato d'Asti en biodynamie, il y a des choses absolument magnifiques.
Moscato, c'est pas une méthode. C'est pas la méthode.
C'est un genre de rugby, mais ça compte pas.
C'est pas une méthode traditionnelle, ça.
Non, je pense que c'est tank. C'est du tank.
Les choses changent beaucoup. Il faut qu'on fasse un travail là-dessus. Enfin, si vous m'invitez, moi je ramènerai de très belles choses.
Mais avec plaisir.
C'est pour cette raison qu'on va te réinviter.
Je ne sais pas si ça rentre dans. Les grands vins dont vous parlez, mais Lambrusco en Italie, qui font des pétillants de rouge, qui
Emilie sont Romagne.
Pour moi des vins que je trouve très très agréables aussi.
Donc dans les bulles, moi j'ai eu il y a des grosses surprises à voir dans ce monde comment ça change aujourd'hui au niveau des bulles. Moi. Et tes cavas, t'avais raison. Hein. Moi j'ai goûté des cavas, puis avec des potentiels de vieillissement surprenants.
Est-ce que c'est la même tendance que dans le champagne, c'est-à-dire d'aller vers des vins plus vineux, moins sur l'effervescence, mais plus sur le vin justement?
Oui, c'est vrai, il y a ça. Puis l'équilibre des bulles est très intéressant. Il n'y a rien de plus fatigant qu'une bulle qui te patonnait. Tu as l'impression que la mousse va te remonter par le nez, sortir et jaillir, c'est infernal.
Oh, le vilain mousseux.
Ouais, c'est affreux.
Champomis d'abord.
Et l'acidité.
Puis les Moscato d'Asti, quand tu as ce côté juste frisant au niveau de la bulle, avec tous ces arômes, cette délicatesse des arômes.
Côté poire, pêche, fleurs blanches.
C'est très beau, quoi. C'est joli. Et puis tu fais un repas avec, il n'y a pas trop de sucre. Ça fait 4 degrés d'alcool, 4 degrés 5. Ça se boit comme de la limonade.
Une brute de pomme, quoi.
Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qu'il faut en penser, mais on a commencé par l'Espagne, on finit quand même en Italie.
Oui,
mais
je vais tourner mes tirades.
On y revient toujours. Ouais.
Le Cava est plutôt côté catalan quand même.
C'est côté Catalan. Oui.
C'est côté Barcelone.
Et la Catalogne est toujours espagnole. Alors on enregistre.
Oui.
Je pense qu'il faudrait demander.
Pas dans sa tête.
Je serais très bien aussi en Priorat. Là, on a fait pratiquement la Rioja, mais en Priorat. Donc
les vins catalans. Est-ce que les vins catalans ont quelque chose à voir avec les vins du côté catalan français, les vins du Roussillon? Rien à voir.
Non. On a l'utilisation de la Grenache.
On est sur des assemblages Grenache et un peu Cabernet. Et sur des
Cabernet Sauvignon.
Ouais, et oui, sur des sols vraiment très particuliers. Rien à voir.
Puis le Priorat, ça a été la partie très très moderne espagnole aussi. Hein.
D'accord. C'est l'avenir des vins espagnols, les
non,
vins catalans?
Non, forcément. Quand tu regardes la complexité de toutes les appellations espagnoles, ces savoir-faire ancestraux de plein de régions fabuleuses, quoi. Mais Priorat, ça a été comme une espèce de fer de lance à un moment donné au niveau du Bonnerdiste. Des fois un peu trop. Hein. Moi, j'ai goûté des fois dans le Priorat des vins qui étaient des infusions de bois neuf, quoi. Mais ça a quand même beaucoup bougé, quoi. Passer d'un vin hyper oxydé d'un Rioja à un Priorat hyper moderne, tu pouvais faire ça dans le même repas dans les années 90. C'était surprise, quoi. Les choses, tout bouge bien.
À en parler avec vous, j'ai quand même l'impression que autant l'Italie est à un sommet en termes de reconnaissance mondiale, autant l'Espagne en a un peu sous le pied. Il y a du potentiel pour une plus grande reconnaissance à l'international aujourd'hui, dans les cartes de vin, autant il est quand même fréquent de voir des Italiens, souvent assez chers, on l'a dit, un peu moins les Espagnols. Ils ont
non, je pense qu'il y a un petit décalage. Il y a un retour sur certains cépages. On parlait du Godiello, qui était un cépage qui n'était pas du tout utilisé. Donc il y a une volonté de revenir sur des choses plutôt dans la diversité que du mainstream, très, très vanillé, très boisé. Encore une fois, il y a une volonté de retour. Pas généralisé, mais dans pas mal de vignobles, sur le travail de la vigne plutôt que le travail dans les chais. Et encore une fois, c'est dans la vigne que ça se passe en termes d'expression du terroir, d'expression de la vigne, etc. etc. Et donc non, il y a plein de choses hyper intéressantes qui se passent.
Et puis c'est un des plus beaux vignobles, hein, quand tu regardes l'âge des vignes, des vignes centenaires.
Exactement.
Des vignes centenaires en Espagne, parce que les gens n'ont pas arraché. La quantité de vieux cépages autochtones, enfin, il y a un potentiel fabuleux sur en Espagne. Et puis des savoir-faire, regarde ce dont on parlait tout à l'heure, quoi. Les finaux.
Je pense qu'on a, en France, on a toujours regardé l'Espagne un petit peu de haut, plus que l'Italie. Donc on est toujours plus dans un regard effectivement d'égal à égal avec les Italiens et un peu plus de regarder de haut l'Espagne. Et c'est certainement un tort.
C'est complètement vrai ce que tu dis, et c'est un tort évidemment. Mais j'ai envie de retourner le truc aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de complexe également que les Italiens nourrissent moins, que les Espagnols nourrissent davantage sur le fait de s'exporter, d'avoir des vins de... Enfin, les vins, là, on parle de vins, mais d'une manière générale, d'être...
Il y a deux plans. Il y a les vignes et la savoir-faire au niveau de la vente. Et franchement, les Italiens, commercial, au niveau de la vente...
Là, c'est historique également.
Après, je pense qu'il y a quand même un gros avantage pour les Italiens. C'est la diaspora italienne aux États-Unis. Ça, c'est clairement un avantage majeur au niveau commercial.
Oui, c'est vrai. Et c'est une des raisons pour lesquelles les vins italiens sont si chers, c'est que la demande internationale est très élevée. Ouais, et ça vient en partie du succès des vins italiens aux États-Unis.
Je pense aussi que
ça rejoint l'idée de la diaspora.
Je pense que l'Espagne aussi, c'est un peu comme le sud-est de la France à une époque. Ils ont pâti aussi du côté un peu volume.
Oui, complètement.
Qui a beaucoup contribué à dévaloriser leur image. Alors qu'à côté se faisaient des très belles choses, soit en Riora, soit en Priorat. Et donc, du coup, on est passé complètement à côté.
Mais pour autant, en France, à la tentation du volume, on a beaucoup arraché.
Ouais.
Ce que nous dit Patrice, c'est qu'en Espagne, on a beaucoup moins arraché.
Ouais,
donc,
alors que c'est un capital, c'est un capital phénoménal, parce qu'en Espagne, on a jamais arraché. En Bourgogne, le rythme auquel on arrache des vignes, c'est juste mais insensé.
C'est-à-dire pour faire du volume.
Tous les 25 ans, on arrache quoi. Et le côté artisan qu'on met en avant sur la Bourgogne, je suis désolé, mais on fait de la viticulture intensive en Bourgogne. Hein. Faut pas se leurrer. Même s'il y a des très belles choses.
Victime de son succès. Ça dénonce, hein. Daniel fait le signe. Ah oui, ça dénonce dans cette émission. Incroyable. On va dire du mal de la Bourgogne, dis donc. Merci à tous pour ce petit tour en Espagne.
Gracias.
On a gracias a todos.
Gracias.
À très vite. Bye bye.
Bye bye.
Au revoir.